Alors je vous invite à écouter et à partager avec moi le commentaire d'un texte biblique extrait de l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 20. Il y aura, après la lecture du texte et après le commentaire, des temps de silence et aussi des temps de prière avec moi. Et après ces temps de prière, je vous laisserai aussi un temps de silence pour que vous puissiez aussi habiter cette prière en ma compagnie. De toute façon, quand vous aurez temps de silence, n'éteignez pas l'enregistrement. Il faudra l'éteindre, vous pourrez l'éteindre quand vous entendrez, quand vous m'entendrez dire fin de l'enregistrement. Mais je vous propose pour commencer une prière à l'Esprit qui lui seul peut ouvrir nos cœurs à la parole du Seigneur. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. Donc, je propose maintenant la lecture de ce texte de saint Paul, extrait de l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20. En voici la lecture. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Dites d'entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous propose d'abord une petite introduction historique. Alors, c'est plutôt dans l'épître aux Corinthiens que Paul se fâche, mais on retrouve un peu cette même critique ici dans l'épître aux Éphésiens, où visiblement, dans certaines communautés, le repas eucharistique donnait lieu plutôt à une bonne bouffe, comme on dit. On y boit trop, on y mange trop, et Paul remet les choses au point, et il veut nous dire que ce qui devrait faire notre joie, ce n'est pas d'avoir simplement un temps ensemble où on rigole bien, on passe un bon moment, mais d'avoir conscience que celui qui nous unit, c'est le Seigneur, et que nous sommes là entre frères, et donc que ce qui fait notre unité, notre amitié, ce qui va habiter ce bon moment, qui va lui donner de la profondeur, au-delà de l'ivresse passagère, c'est vraiment la prière, et se laisser habiter par l'Esprit. Fruit, si vous voulez, un petit peu cette habitation de l'Esprit, de notre ouverture à sa présence, du fait même de notre prière. Alors nous avons là, bien sûr, déjà, au sens très littéral du texte et historique, un appel à bien mesurer ce qu'est l'amitié entre chrétiens. D'abord, il ne faut pas croire que le simple fait d'être avec des gens qui partagent notre foi est suffisant. Il faut vraiment que ces rencontres soient mûris, précédés, habités par la prière, que nous ayons de saintes discussions. Ça n'empêche pas, bien évidemment, l'humour, mais il serait tellement dommage qu'entre frères, de la même foi, nous en restions à des discussions du même niveau que celles que nous avons avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Et donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est au sujet de nos propres assemblées eucharistiques. Sont-elles habitées de notre louange, de notre soif du Seigneur? Y a-t-il, pour quelqu'un qui vient dans l'extérieur, cet énorme plus de se dire, tiens, ce qui les lie entre eux, c'est autre chose que simplement le désir de s'éclater, où chacun essaie de tirer la couverture à soi. C'est bien pour ça qu'il faut préparer nos eucharisties, nos temps de prière, nos rencontres avec nos frères chrétiens, par justement la prière, pour que quand nous les voyons, nous soyons habités de ce désir de partager avec eux notre foi et vraiment de louer le Seigneur ensemble. Et vous verrez que si dans, avec nos amitiés, si dans nos amitiés, dans nos assemblées, dans nos couples, nous mettons la prière au premier plan, eh bien nos relations vont s'approfondir, ce qui n'empêchera pas des moments de complicité qui peuvent déboucher bien sûr sur des moments de joie, de sourire et de rire. Alors ça, c'est la première chose. Donc soyons bien conscients de cet appel de Paul, inspiré par l'Esprit, dans ce texte de la parole de Dieu, à vraiment vivre notre foi, nos amitiés, nos assemblées dans un esprit de prière. Ensuite, ici nous avons un portrait de Jésus, comme nous y invite l'interprétation dite allégorique. Jésus est celui qui a mis en pratique ce texte de A à Z. Jésus, on l'a traité de glouton, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Baptiste était celui qui était possédé, soi-disant, parce qu'il était trop ascétique. Et Jésus, on le traitait de glouton, parce qu'il allait avec les pécheurs. Jésus n'a jamais hésité à, effectivement, aller avec les pécheurs, aller à leur contact, mais non pas pour s'enivrer, mais pour tirer parti du temps présent. Jésus avait toujours conscience du péché d'autrui, que les temps présents sont mauvais, les jours que nous traversons. Donc Jésus avait cette lucidité. Il a toujours appelé le péché. Quand il était chez Zachée, il a dit que le salut était entré dans cette maison. Donc il n'a pas nié que Zachée était un pécheur. Quand il est allé chez Matthieu, il savait très bien que c'était des pécheurs. Il a même dit que les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Donc c'est que ceux chez qui il était étaient malades. Donc il faut vraiment avoir cette lucidité. Mais non pas pour juger à la pharisien ou critiquer, mais pour davantage aimer. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'on appelle tirer parti du temps présent. Donc Jésus a su allier ce côté, d'ailleurs ça lui a valu le titre de glouton, ce côté d'aimer les autres, d'aller à leur contact, de ne pas les juger, mais toujours dans l'esprit de tirer parti du temps présent pour les amener à Dieu. Et Jésus le premier, quand on regarde l'évangile, disait que, l'Esprit était venu sur lui, déjà au baptême, dans les prophéties d'Isaïe, le Messie était celui qui avait l'Esprit Saint en plénitude, c'est ce que nous redit ce texte. Et Jésus, notamment on le voit le soir du Jeudi Saint, disait des psaumes et des hymnes avec ses apôtres, et dans, je crois, Matthieu chapitre 11, on voit Jésus qui, et je crois que c'est Luc chapitre 12, on voit Jésus aussi louer librement le Père. Et Jésus était toujours dans cet état de grâce vis-à-vis du Père. Et Jésus aussi a toujours dit que ce qui le motivait, c'était de faire la volonté du Seigneur. C'est ce que dit le texte, il nous appelle à faire de même. Jésus disait en Jean que sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Donc à l'image de Jésus, nous sommes appelés aussi à avoir ce regard lucide sur autrui, et que ce regard lucide nous conduise vraiment à faire la volonté du Seigneur. Et pour faire cette volonté, à l'image du Christ, soyons nourris de la prière. Cette prière qui se fait à la fois tant de prières d'intimité assez structurées, comme les psaumes, les hymnes, mais aussi libre, et puis aussi cette prière qui se fait à tout moment de la journée, ou qui est teintée de louanges, où on rend grâce à Dieu le Père, à l'image de Jésus. Alors justement, je vais profiter de ce modèle qui a été pour nous Jésus, et je viens de vous y inciter déjà, à suivre ce modèle, pour aller un peu plus en profondeur dans l'interprétation, disons morale, ou anthropologique, celle qui va vraiment aller au plus profond de nous-mêmes et de notre vie quotidienne. Alors pour ça, je vais reprendre le texte un petit peu verset par verset. Donc frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Alors le texte continue à nous à expliciter ce qu'il entend par là. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Eh bien, nous sommes invités à vivre le temps présent avec un autre regard que celui qui est englué dans la vie quotidienne sans regarder à Dieu. En tant que chrétien, nous savons que le temps n'a pas la même valeur, que le but n'est pas le même que pour celui qui ne vit que pour ce monde. Et c'est ça être sage. Eh bien, tirer parti du temps présent, c'est d'abord reconnaître, par exemple, en nous-mêmes et en nos frères, le péché, la lucidité. Non, nos frères ne sont pas parfaits. Non, il y a des choses qui ne vont pas chez eux. Non, nous ne sommes pas parfaits. Ne refusons pas de voir en face nos blessures et nos défauts et nos péchés. Ça, c'est cette lucidité. Et alors, nous sommes appelés à tirer parti du temps présent, c'est-à-dire que, conscients du péché qu'habitent nos frères et qui nous habite nous-mêmes et qui habite ce monde, alors nous sommes appelés à l'image du Christ à tirer parti de cette lucidité qui nous est donnée. Comment? Alors le texte va nous montrer plus tard qu'il y a la prière. Donc cette prière doit se faire intercession qui va déboucher, se prolonger, s'épanouir dans la charité, justement pour ceux vis-à-vis desquels nous avons eu ce regard lucide par rapport à leurs péchés. C'est justement parce que nous avons ce regard lucide par rapport à nos frères que nous sommes capables de tirer parti du temps présent, c'est-à-dire de tirer parti des moments qui nous sont donnés en leur compagnie pour les aimer et pour prier pour eux. Autrement, eh bien, nous aurons une saine, et je dis ça avec ironie, indifférence. En fait, nous n'aurons pas du tout le comportement adéquat, cette indifférence qui tue, qui est nourrie et qui nourrit l'égoïsme. Et c'est pas comme ça que nous pourrons vraiment aider nos frères à rencontrer le Christ, source unique du salut. Parce que si nous voyons nos frères nous engluer dans leur stress, dans leurs soucis, dans leurs idolâtries, dans leurs petits bonheurs qui débouchent sur des gueules de bois régulières, eh bien, et si nous ne tirons pas parti de cette lucidité qui nous est donnée pour prier pour eux, pour essayer de leur montrer par la qualité de notre vie que l'Esprit Saint nous donne, c'est nous recevons ça de l'Esprit Saint par la prière. Si nous ne montrons pas donc par la qualité de notre vie qu'il y a autre chose de plus grand, de plus profond, de plus durable, ça s'appelle le Christ, et si nous ne leur donnons donc pas envie de voir autre chose, et tout ça nourrit bien sûr d'intercession et de prière, alors nous ne les aimons pas vraiment. Et c'est ça, faire la volonté de Dieu. Donc tirer parti du temps présent, c'est aussi un appel à l'optimisme. Parce que des fois nous voyons dans nos propres défauts, nos propres péchés, nous sommes découragés. Eh bien, tirons parti de cette lucidité qui nous est donnée, de cette souffrance que nous voyons par rapport à nos chutes, pour justement redoubler de prières et d'abandon à la grâce de Dieu, à cet esprit qui nous habite, fort de cette conviction que, petit à petit, à la mesure de notre ouverture à la miséricorde du Seigneur, à l'action de l'Esprit, eh bien, ce qui nous peine, ce qui tendrait à nous faire déprimer, eh bien, va petit à petit céder le pas à l'Esprit Saint, et nous deviendrons petit à petit de plus en plus saints à l'image du Seigneur. Donc vous voyez ce regard optimiste sur nous-mêmes et à la fois lucide, c'est ça tirer parti du temps présent. De même pour nos frères, nous voyons qu'ils sont fermés, qu'ils sont indifférents, qu'ils ne correspondent pas à ce que l'on voudrait, qu'ils ne sont pas parfaits. Eh bien tirer parti du temps présent, c'est justement ne pas du tout s'en détacher ou les critiquer ou les juger, mais bien les aimer encore davantage et prier davantage pour eux. Et c'est bien ça, ne pas s'enivrer. Parce que, ici, bien sûr, le texte littéralement parle du vin dans les assemblées, mais dans un niveau symbolique. Quand nous oublions de travailler pour le Seigneur, quand nous oublions ce regard que je viens de mentionner, ce regard de miséricorde et d'espérance fondé sur la présence de l'Esprit et du Christ, eh bien, nous aurons tendance à nous endormir, à ne pas veiller. Et nous n'aurons plus le comportement exigeant d'amour et d'intercession pour nos frères, ou ce comportement à la fois lucide et plein d'espérance vis-à-vis de nos propres défauts. Nous allons nous émousser. Alors ne restons pas enivrés, mais ayons toujours, toujours, toujours cette vision que le Seigneur, que la grâce du Seigneur travaille en nos frères et en nous-mêmes, et que nous sommes appelés à épauler le travail de cette grâce par nos actes et notre prière d'intercession. Et ensuite, le texte nous donne la clé pour justement avoir ce comportement sobre, c'est-à-dire ce comportement qui va toujours avoir en vue la présence du Christ dans notre vie, dans nos moments de vie quotidienne. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Donc, bien sûr, s'ouvrir et s'abandonner à l'action de l'Esprit, que ce soit pour nos frères ou pour nous-mêmes. avoir toujours conscient que l'esprit nous précède dans le cœur de nos frères, qu'il est au travail et que notre rôle est un rôle de soutien et non pas un rôle de guide. Tout ne dépend pas de nous, loin de là. C'est l'Esprit Saint qui travaille d'abord. De même dans nos cœurs, soyons conscients que l'Esprit travaille, et alors abandonnons-nous davantage, c'est dur à dire, à l'action de l'Esprit en nos cœurs, et fort de cet abandon, eh bien redoublons d'efforts, justement, parce que nous serons motivés. Alors, après, dites entre vous des psaumes, des hymnes. La première condition pour avoir ce regard d'espérance, cette volonté, cette persévérance de soutien dans la prière et la charité, soit par rapport à nos frères ou à nous-mêmes. Donc, cette persévérance et cette motivation d'épauler l'action de l'esprit, c'est d'avoir cette vision dont je parlais, c'est d'abord d'avoir des temps de prière, structurés. D'abord des temps que l'on se prend dans la journée. Il est bien évident que si nous voulons une relation de qualité, ne serait-ce qu'entre nous, être humains ou dans un couple, il n'y a pas de moment d'intimité avec nos conjoints, nos enfants, nos amis, eh bien notre amitié va s'étioler. Il en est de même avec le Seigneur, il nous faut des moments d'intimité. Et le texte nous mentionne les hymnes, les psaumes. Je ne saurais trop vous recommander d'apprendre à prier la prière de l'Église, qui est la liturgie des heures, qui effectivement est fondée sur les psaumes, des hymnes et la lecture de la parole. Parce que à travers le psaume, on voit bien qu'il y a la parole de Dieu. Car le psaume est une partie de la parole de Dieu. Donc je saurais trop vous recommander non seulement de vous donner des moments de prière fixes dans la journée, alors vous pouvez commencer modestement et petit à petit laisser l'esprit justement vous remplir et vous aurez de plus en plus soif d'avoir ces moments de prière et votre vie quotidienne en gagnera en qualité et en intensité, vous verrez. Il faut aussi des temps qui soient structurés. C'est-à-dire, bon, alors je parlerai de la liturgie des heures, où la prière d'église déjà structure le temps de prière, et vous pouvez aussi la structurer comme vous voulez, mais qu'il y ait, disons si vous voulez, qu'avant la lecture de la parole de Dieu qui doit être le centre de votre prière, à travers la parole de Dieu, il y a ce moment de dialogue entre Dieu qui vous parle par sa parole, et vous qui, inspiré par ce que vous venez de lire, allez répondre en priant, en louant, en demandant. Il est bon qu'il y ait avant cette lecture et après cette lecture d'autres lectures d'hymnes, de psaumes, etc. pour vous mettre en condition. De même, il est bon d'avoir un coin prière. Tout ça pour vous mettre en condition, pour soigner ce moment d'intimité. Mais il ne suffit pas d'avoir des temps fixes, des prières structurées, des récitations. Il faut surtout aussi avoir des libres louanges. Le Seigneur veut que nous parlions aussi avec notre cœur. C'est à la mesure de la structuration de nos temps de prière que nous aurons après ces moments de louange. De même, quand on lit la parole, eh bien, il est bon, après d'avoir lu la parole, d'en faire une prière à partir de ce que nous avons lu, et toujours ne pas oublier la louange. Pourquoi ? Le texte va le dire encore après. Parce que, quelles que soient les circonstances extérieures, il ne faut pas se laisser enivrer par le pessimisme ou l'optimisme béat, mais il faut se laisser habiter par l'esprit qui est l'espérance par excellence. Et donc, si nous avons ces moments d'espérance, quelles que soient les circonstances extérieures, toujours il y aura la louange. De même, la louange, en lisant la parole de Dieu, de savoir contempler ce Dieu qui a accepté de venir habiter notre terre, de prendre sur lui tout ce qui nous faisait mal au point d'en mourir, ça l'a fait mourir, cette souffrance qu'il voyait en nous. Et ce Dieu qui nous habite toujours par son esprit, qui agit toujours en nous et en nos frères, et qui nous appelle à coopérer avec lui pour que les hommes sauvent les hommes, pour que tout soit fait dans la pleine liberté, dans le prolongement de ce qu'est le sens profond de l'incarnation. Un homme sauve les hommes, c'est comme ça que Dieu veut faire, il veut nous sauver avec notre libre consentement. Eh bien, louons Dieu pour ça, parce qu'il veut nous faire de nous ses coopérateurs, qui nous demande de le servir au salut de nos frères, mais que ce service est secondaire parce qu'il est d'abord lui dans les cœurs, c'est lui qui travaille et notre rôle est un rôle de soutien, mais tout ne dépend pas de nous, nous n'avons pas cette responsabilité immense qui nous conduirait à la culpabilité de sauver nos frères. Nous sommes là pour contribuer à leur salut, pour coopérer à leur salut. Quelle chance avons-nous d'avoir ce Dieu qui à la fois est là, il nous aide, mais il nous demande de l'aider aussi. Il nous donne cette noblesse de la coopération. Et le texte continue donc chanter le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. C'est exactement ça, tout doit venir du cœur. Voyez? Et c'est bien pour ça qu'il faut des temps de prière déjà d'intimité, fixes, puis structurés, parce que nous nous mettons en condition et petit à petit nous nous ouvrons à l'esprit. Et la lecture de la parole doit déboucher sur après un temps de louange, où justement à la mesure de la qualité et du sérieux que nous aurons mis dans notre temps de prière, eh bien l'esprit pourra faire sa demeure en nous et nous nous serons toujours davantage abandonnés parce que nous consacrons du temps et nous prenons avec sérieux notre prière. Alors l'esprit pourra davantage nous pénétrer et nous inspirer de libres louanges et lui seul pourra faire résonner notre cœur quand nous lisons la parole. C'est à la fois donc la prière ce savant mélange d'une structuration, mais qui doit être au service de l'action de l'esprit pour que tout débouche après sur une plus grande spontanéité. Si nous n'avons qu'une spontanéité sans structuration, très vite nous allons nous lasser et nous ne saurons plus quoi dire. Si à l'inverse, nous n'avons que des prières rituelles, eh bien Jésus l'a dit aux pharisiens, vous m'honorez des lèvres, mais je suis loin de votre cœur, en citant Isaïe. Et à un moment ou à un autre, notre foi se desséchera. C'est aussi une leçon pour nos eucharisties et nos messes. Elles sont très ritualisées, mais ce rite, cette structuration de la messe est faite pour que nous, quand nous y allons, dans notre cœur, nous soyons à l'écoute de la parole, qu'après avoir communié, nous soyons un temps de prière spontané, que nous mettions notre cœur dans le chant. Et après, donc le texte se conclut en disant, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons un autre type de prière, ça dépasse le temps fixe. Parce qu'après, quand nous aurons eu ces prières avec un temps fixe, les yeux fixés sur Dieu, toute notre vie va être remplie de l'Esprit, et alors toute notre vie sera prière. Nous verrons des gens, nous prierons pour eux. Nous aurons aussi comme je le disais tout à l'heure, tiré partie du temps présent. Eh bien, c'est vraiment faire habiter la prière dans le temps. C'est-à-dire que nous aurons toujours ces prières pour nos frères, pour nous-mêmes, etc. Nous serons toujours dans l'esprit de prière, au gré des circonstances, au gré des gens que nous croiserons. Et c'est aussi rendre grâce à Dieu, c'est aussi avoir cette sobriété, ce regard, se disant que nous avons une mission à accomplir et prendre avec sérieux chaque chose que nous faisons, conscient que tout ce que nous faisons est un prolongement de notre prière et un appui à l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs. Et nous faisons ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ. Eh bien oui, nous faisons ça parce que par le Christ, nous savons que Dieu agit, que Dieu est là et qu'au-delà des circonstances extérieures qui nous rappellent parfois la croix, que ce soit pour nos frères ou dans nos propres cœurs, dans nos propres déprimes, nous savons qu'il y a la résurrection. Nous savons que nous pouvons rendre grâce, quelles que soient les circonstances, parce qu'il y a Jésus. Parce que Dieu, par son Fils, par son agir, par sa parole, eh bien Dieu habite nos circonstances, Dieu habite notre vie, Dieu habite nos cœurs, Dieu habite nos amitiés. Et il saura tirer du bien du mal, et il saura tirer la résurrection de la croix. C'est ce regard d'espérance auquel je vous appelais tout à l'heure, c'est tirer parti du temps présent. Ne jamais regarder les circonstances pour elles-mêmes, mais les regarder comme étant habitées par le Christ, qui leur donne du coup un but. Oui, quels que soient les revers, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Laissons faire Dieu par l'esprit de son Fils, qui va vraiment, à la mesure justement de notre comportement dans ces moments, qu'ils soient bons ou mauvais, et dans notre esprit de prière, il pourra davantage habiter nos moments, nos vies quotidiennes, nos amitiés, nos péchés, nos défauts, pour justement les transfigurer de la résurrection de son Fils. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça tirer parti du temps présent. C'est reconnaître, oui, avec lucidité, qu'il y a des choses mauvaises en nos frères, en nous-mêmes, en ce monde, mais les faire habiter, ou plutôt les laisser habiter par l'optimisme que nous donne l'Esprit du Christ. Nous devons vraiment avoir ce regard d'optimisme au cœur du péché, sachant que le Christ peut ressusciter vraiment le pire des morts. Telle amitié, tel péché qui nous ronge, telle fermeture de cœur, etc. Et du coup, on va élargir la perspective. Tirer parti du temps présent, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, c'est ne pas vivre la vie pour ce qu'elle est pour elle-même. Il y a quelque chose de plus grand. La vie, cette vie sur Terre est une préparation à la vie avec un grand V, la vie éternelle. C'est d'abord savoir reconnaître que notre vie terrestre a ses limites et que le bonheur que nous pouvons avoir est très limité et qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous appelle. Et donc, il faut vivre cette vie en fonction de l'autre. C'est ça, tirer parti du temps présent. Comment? Ben, déjà en vivant comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, avec cette vision, ce regard de charité, de prière, sur les frères, sur nous-mêmes, sur les péchés, sur les blessures et sur notre quotidien. Et puis c'est épouser les valeurs du royaume, hein, sachant prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive, par rapport aux événements du monde, justement en pensant que tout ceci est préparatoire, préparatoire à la vie éternelle. Et oui, il faut pas du tout vivre aussi cette vie en ayant peur de l'autre vie. Paul nous dit, ayez des temps de prière. Par ces temps de prière, nous avons des respirations vers l'autre vie. Nous commençons à laisser entrer la vie éternelle dans cette vie, le monde invisible dans ce monde visible. Et à la mesure de nos temps de prière, nous aurons de plus en plus ce regard fixé vers le ciel pour mieux justement avoir les pieds sur terre. Hein, c'est ce que je disais, tirer parti du temps présent. Et alors nous aurons envie de rendre grâce pour toutes choses, parce que nous verrons que, quoi qu'il arrive, tout est là pour nous préparer au grand partage. Alors nous ne devons pas avoir peur de l'enfer ou qu'on doit gagner son salut. Parce que malgré nos travers, malgré nos faiblesses, malgré nos revers, eh bien cette vie est faite pour être habitée par le Christ. Et alors on comprend donc davantage que cette vie doit déboucher sur de libres louanges de notre part, parce que nous savons que le Christ est à nos côtés. Il habite notre vie pour nous préparer à l'autre, pour commencer, si on pourrait dire, notre purgatoire, ici, pour que nous soyons pleinement prêts pour le grand passage. Donc le Christ n'est pas là pour nous juger, mais pour nous aider, pour nous préparer à ce grand passage, pour que, quand nous arrivions dans l'autre monde, nous soyons déjà pétris de ses valeurs et que nous nous sentions, ben, tout simplement chez nous. Et donc, c'est vivre cette vie avec l'autre vie en tête, c'est donc changer de priorité, ne plus avoir les mêmes priorités dans la vie, c'est prendre du recul, un recul qui justement nous aidera à mieux vivre dès cette vie, parce que finalement le stress et tout ce qui est en train d'empoisonner nos contemporains et nos propres vies, c'est tout simplement le stress qui est un manque de recul par rapport aux circonstances. Eh bien, si nous sachons vivre cette vie avec la conscience, hein, que elle est préparatoire, elle est un tremplin de par notre amitié avec le Christ dès cette vie à l'autre vie, nous ne verrons plus les choses de la même manière. Et c'est justement ça, ne pas être ivre et rester sobre. Voyez, ne pas être irréfléchi, ne pas s'enivrer. Le vin porte à la débauche. Ici, c'est comme si on vit cette vie sans recul. Justement, le sage est celui qui a la sobriété du regard des cieux pour vivre cette vie sobrement, c'est-à-dire avec le recul nécessaire, pour savoir la vivre plus pleinement en compagnie du Christ. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager, et j'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu à davantage avoir des points de repère pour mieux vivre cette vie. Alors, je vous propose donc un temps de prière, un temps de silence. Maintenant, je vais prier avec vous pour habiter justement ce temps de silence. Seigneur, d'abord merci Jésus parce que tu nous as montré l'exemple. Toi seul as pleinement vécu cette vie faite de lucidité par rapport au péché. Et toi seul as su vraiment utiliser cette lucidité pour un amour plus grand, plus bienveillant vis-à-vis des frères. Tu as toi seul su tirer le temps, parti du temps présent, en le faisant habiter de ta résurrection. Toi seul, Jésus, as pu justement passer des nuits en prière et vraiment te laisser habiter par l'Esprit Saint, nourri par la prière. C'est bien pour ça, Jésus, que nous te demandons de nous aider à te suivre sur ce chemin où vraiment tu nous demandes d'avoir la lucidité par rapport à cette vie, par rapport à ce qui peut nous arriver, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos frères. Cette lucidité que tu nous appelles à utiliser pour justement tirer parti du temps présent, c'est-à-dire avoir l'espoir, malgré les apparences, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui intercèdent pour leurs frères, de ceux qui prient pour eux, pour la délivrance de leurs péchés. Oui, Seigneur, aide-nous à augmenter en nous la foi pour savoir que tout ce qui peut arriver, quelle que soit l'apparence négative, eh bien, tout est là pour justement concourir à l'exaucement de nos prières, à l'ouverture des cœurs de nos frères à ta parole, à ta présence, à la purification de ce qui nous fait mal, de nos blessures, de nos péchés. Oui, Seigneur, apprends-nous à avoir ce regard de lucidité, de charité, d'espérance et de foi. Seigneur, apprends-nous aussi à toujours prendre au sérieux les temps de prière que tu veux avoir avec nous et ouvre notre cœur à l'action de l'Esprit pour que ces temps de prière puissent déboucher sur des temps de louange et que ces temps de prière débordent dans toute notre vie pour que toute notre vie devienne prière. Oui, vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce, ô Père, au nom de ton Fils, lui que tu as envoyé pour que, justement, il donne sens à notre vie, à nos actes. Oui, nous te rendons grâce, ô Seigneur. Merci, Père, parce que tu donnes sens à notre vie par l'amitié que tu nous donne d'avoir avec toi par le lien de ton Fils. Merci, Père. Merci vraiment de nous donner la vision, la véritable vision de ce qu'est cette vie par rapport à l'autre. Une vie qui ne prend tout son sens que parce que elle est là pour nous préparer à rentrer dans la maison que tu nous prépares par ton Fils. Gloire à toi, Père. Amen. Je voudrais maintenant conclure par une prière qui va nous aider. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à assimiler tout ce que nous avons lu et tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus notre Seigneur, et à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.